Lecture du livre de l'Exode.
En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les deux tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les deux faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture. C'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse, « Bruit le matin et dans le camp. » Moïse répliqua, « Ces bruits ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère. Il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit sur la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » Parole du Seigneur.
Ne rendons grâce à Dieu.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Alors ils fabriquaient vous, ils adoraient l'objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte. Des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Dieu a décidé de les détruire, c'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 le Père a voulu nous engendrer, alléluia, il nous engendre dans son verbe de vie, de vérité, pour faire de nous les prémices de toutes ces créatures, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Notre Seigneur selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une petite graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse de loin toutes les autres plantes potagères et même elle devient un arbre si grand et de telle manière que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole que voici le royaume des cieux se compare au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole. Et il accomplissait ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, répande son huile vivifiante, son onction céleste. Enracine sa bénédiction toute chair assoiffée de pureté et de sainteté parfaite, qu'il puisse voir s'ouvrir devant leurs yeux les portes d'Allah, Jérusalem céleste de cette terre, libre de toute entrave, lavée de toute faute. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi. Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia.
Très préoccupé par ce qui se passe dehors. Là.
Parce que j'ai peur que mon chien les empêche de venir.
Non, elles aiment beaucoup votre petit chien.
Non, c'est autre chose, c'est des voitures qui passent et ça circule.
Non, moi c'est le chien.
Non, vous êtes pas. C'est tout va bien. Bon, on s'occupe de la circulation sur cette autoroute aussi. Là, on a le regard fixé sur cette circulation-là. Fixé, là. C'est fixé sur la cause finale. C'est ça. Non, elles sont fatiguées. On a terminé un peu plus tard que d'habitude hier. Cette nuit, c'est pour ça. Alors, reposez-vous. Ici on marche au courant alternatif.
Voici les uns. C'est bien, c'est très bien synchronisé. Les paraboles, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des paraboles. Parce que si Jésus fait des paraboles, c'est pour que ceux qui écoutent ne comprennent pas. C'est pour que ceux qui entendent ne saisissent pas. Sinon, ils se convertiraient. Alors, il fait des paraboles, mais il explique à ceux qui sont proches de lui, ceux dont il sait qu'ils iront jusqu'au bout. Alors, à eux, il l'explique. Mais les paraboles, c'est pour que les autres ne comprennent pas. C'est exactement le contraire de ce que disent les gens. Oui, au moins, le Jésus, c'était simple, il parlait en paraboles. Ceux qui les tiennent, ils disent toujours ça. Pas besoin de rentrer dans l'intelligence divine des Écritures. C'est pas besoin, puisque... Oui, la doctrine... La doctrine. Donc les paraboles, c'est pour empêcher les gens. Jésus empêche les gens de rentrer. Alors il fait des paraboles. C'est pour empêcher les gens d'entrer. Il y a des secrets qu'on ne peut pas donner aux cochons. Qu'on ne peut pas laisser aux porcs. Alors il fait des paraboles. Et en même temps, c'est miséricordieux parce que les tièdes, du coup, se disent tout de même, c'est beau. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils ne comprennent pas, mais il aime les protestants, le Seigneur. Il les aime et il les attire. Mais toutes les paraboles concernent toujours le secret de Marie. Là, aujourd'hui c'est facile. Une femme qui prend une mesure de farine, une femme, terme exact, il a dit. Elle prend du levain, et elle l'enfouit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte est levée. En clair, c'est facile, là, une femme, elle prend le levain, elle l'enfouit dans 3... Voilà, c'est extraordinaire, c'est le levain, c'est Jésus crucifié, il est levé, hein, il soulève. L'humanité tout entière hors du péché. Marie donc enfonce Jésus dans sa croix, et de sa croix enfonce Jésus dans la très sainte Trinité, jusqu'à ce que soit venue la fin du monde. Donc cette parabole montre le lien entre Marie Rédemptrice, la transverbération, et bien l'Eucharistie, du moins le fruit de l'Eucharistie dans la grâce finale. Et les 3 sont... Là, c'est presque pas la peine de commenter tout, parce que c'est tellement limite à la femme. Bon. C'est pour ça que là, l'interprétation est immédiate, surtout avec les pères de l'Église, ça vient immédiatement. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il dit, ah oui, mais ça, c'est la deuxième parabole sur le même évangile. Donc, ça veut dire que l'autre, c'est aussi le mystère de Marie. Et c'est avant qu'elle soit médiatrice de toute grâce, co-rédemptrice et mère sacerdotale finale en plénitude reçue d'accomplissement de l'Eucharistie. Voilà, ça c'est le levain. Finalement, ça donne la signification de l'Eucharistie. Donc ça, Jésus, bien sûr, qu'aux disciples, il a expliqué ça. Enfin, en tout cas, aux 3, sûrement, Pierre, Jacques et Jean, ça peut pas être autrement. À un moment donné, c'est écrit très clairement, juste avant la transfiguration, qu'il a levé le voile sur le mystère de Marie à Pierre, Jacques et Jean, après avoir ressuscité la Vierge, la petite jeune fille, la petite Vierge de 12 ans. La fille de la synagogue, la petite Vierge. Ah ! Et toutes les paraboles sont comme ça. Il prend les paraboles pour dire, attention, c'est vrai ce que je vous dis dans la parabole, mais on ne peut pas le comprendre, parce que vous n'êtes pas assez fixé sur la forêt, vous regardez dehors sur les chemins qui ne mènent pas au ciel, alors qu'on est en train de dresser un chemin qui mène au ciel. On va devoir le fixer sur le ciel. Fixer sur la fin. Si on n'est pas fixé sur la cause finale, en ne voyant que ça, bah à ce moment-là, il ne reste plus que les paraboles. Ce n'est pas la peine de prendre les autres choses. Puisque notre attention est contemplative dans la foi. Si notre attention n'est pas contemplative, attention, ce que je vais dire, comme dit saint Thomas, contemplative en plénitude reçue. La foi, si elle ne s'actue pas dans l'acte pur de son accomplissement final en plénitude reçue, cette formule est très simple, est très belle, est très juste, vous voyez. Tiens, par exemple, on a un de nos combattants, là, c'est Jean-Marc, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quand il commence son oraison, il répète cette formule-là, qui est de saint Thomas d'Aquin. Et, je sais pas, 7, 8, 15, 20 fois, et à un moment donné, ça y est, fixe son regard dessus, ça y est, tac. Lui, en 15 secondes, il est dans l'oraison de quiétude. Il n'y a plus aucune. Sans effort, parce que si on a son regard fixé par la foi en Dieu, forcément, l'Esprit Saint, il vient, et puis. Il nous aspire, il nous place dans la quatrième demeure. À ce moment-là, on est à la frontière de la cinquième. C'est pour ça que ces formules qui donnent par des mots justes, qui réalisent donc ce qu'ils signifient en nous. Ce que c'est que la foi, c'est bien la foi. Elle est contemplative. Si elle n'est pas contemplative, c'est pas la foi. C'est seulement une vertu naturelle. La foi, c'est théologal. C'est surnaturel, c'est divin. C'est... Sinon, c'est une foi. C'est... Voilà, c'est... je crois que tu existes, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Enfin, bref, on est comme un musulman, quoi. Si elle n'est pas contemplative. Et elle n'est contemplative si je perçois sensiblement, c'est consciente, c'est une relation consciente, surnaturelle. Si elle souffle sous le souffle de l'Esprit Saint, la foi, c'est ça. C'est... La foi, c'est... elle est contemplative et elle touche. Elle touche l'accomplissement final en plénitude reçue. La foi, c'est une foi contemplative en plénitude reçue de l'accomplissement final universel de toute chose. C'est ce que voit toute chose. Au moment de l'accomplissement final, la Jérusalem glorieuse terminale, la Jérusalem glorieuse va s'éclipser à l'intérieur de la très sainte Trinité. Et que verra-t-elle cette Jérusalem glorieuse finale? C'est ça qu'on regarde, qu'on contemple dans l'acte de foi. L'objet de l'acte de foi, c'est ce passage. Et je le contemple, j'ai les yeux fixés sur cet accomplissement en plénitude reçue de la Jérusalem glorieuse terminale finale. Voilà, je sais que Dieu existe, donc je suis fixé sur la grâce, sur l'accomplissement final. Alors je réserve glorieuse en plénitude reçue de la femme. Et ça y est, on a la signification de la première parabole. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme on dit, n'est-ce pas, pour comprendre un passage, si vous voulez. Hein. Ah, la toute petite, 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 la plus petite, d'ailleurs, la plus petite de toutes les semences. Et bien, au milieu des plantes potagères, elle fait un arbre immense, mais qui dépasse de très, 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 très loin, avec en plus des branches. Et tous les oiseaux, ah, là, cette fois-ci, c'est une parabole qui intègre le miracle des trois éléments. Tous les oiseaux, c'est-à-dire là, le monde angélique, tous les oiseaux qui viennent dans le mystère de la croix, dans son épanouissement final, c'est la croix qui vient de la très sainte Trinité vers nous. Et là, les anges sont intégrés, et notre acte de foi doit être aussi un acte d'espérance. Et la foi, là, elle fait un acte qui touche la lumière et elle voit, hein, on voit quand tu fais l'acte de foi, tu vois ce que tu contemples, c'est un contemplatif qui touche, et c'est soi, c'est, C'est toi qui décides de faire un acte de foi. Le caractère du baptême te donne ce pouvoir. C'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est baptisé et quelqu'un qui n'est pas baptisé. Quelqu'un qui a ce caractère du baptême, il peut faire cet acte de foi, là, celui-là. Les autres, ils peuvent faire un acte de foi dans la religion catholique, c'est juste un acte de religion, c'est tout. Mais à ce moment-là, c'est l'acte de religion, c'est plus du tout la foi qui sauve, c'est plus la foi justifiante. C'est pas la foi, c'est une foi de cause diminuante, perpétuelle, quoi. C'est la foi de celui qui traite son petit chat, non ? Oui. Le chien, c'est pas pareil, c'est plus noble. Les oiseaux, faut viser les oiseaux. Bon, de toute façon, c'est la mort qui compte. Mais dans l'espérance, ah, c'est différent dans l'espérance. Et de la très sainte Trinité. Si Jésus revient avec les nuées du ciel, de derrière, si je puis dire, de l'intérieur, la félicité, la fameuse félicité incréée, de derrière. L'interface des noces de l'agneau, de derrière, de la très sainte Trinité, dans l'ouverture glorieuse de qui est déjà, au-delà de l'accomplissement de la Jérusalem glorieuse disparue, vous voyez, et qui revient vers nous, vers les noces de l'agneau. C'est toujours un mystère eucharistique. Maria, quand Marie fait un acte d'espérance, elle voit ça, elle le fait, elle le réalise. Et elle incorpore tout le monde angélique dans le mystère de la croix, dans l'indivisibilité de l'acte d'espérance. Et donc ces deux paraboles montrent comment Marie fait un acte d'espérance, comment elle fait un acte de foi. Et ce qui est beau, ça, ce qui est touchant comme tout, c'est que de savoir que Jésus expliquait ce que je vous dis là en privé. Apôtres. Et c'est ça, ces explications-là, qui sont la source de la doctrine infaillible de l'Église catholique. C'est pas l'Évangile qui est la source de la doctrine infaillible. C'est les explications, pas secrètes, mais les explications. Voilà, c'est la doctrine infaillible. Oui. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est instruit à la doctrine infaillible, il ne peut pas s'imaginer rentrer dans une interprétation ou une traduction ou autre qui ne soit pas de cette doctrine-là. On est fixé sur la cause finale. C'est drôlement bien. Et je vous assure que quand on a des... Moi, je peux vous le dire, quand on a quand c'est l'Église catholique qui vous forme à la doctrine, comme moi j'ai eu avec le Père Marido, par exemple. Le Père Marido, il était... Lui, il transmet, et ce qu'on lui avait transmis, attention, hein, ce Père de Haut, hein, le Père de Haut, son oncle, le Père Marido, le Père Thomas, Philippe, c'est de la doctrine. Tu n'as pas la moindre, mais pas la moindre fois, la tentation d'aller chercher une doctrine ailleurs. Mais c'est même pas le... C'est impossible. Tu peux pas. La doctrine de l'Église, on devient insatiable de la doctrine de l'Église. Avec des formateurs comme ça. Pas la moindre erreur, ni sur le ton, vous voyez, ni sur la manière, ni sur la... Rien qui vient de lui, rien qui vient de lui. Uniquement la doctrine. C'est un père Marido pour ça, était... Mais le père Thomas aussi, les autres aussi. T'es en sécurité là, si je peux dire, du point de vue de la doctrine. C'est pas seulement une sécurité, c'est pour celui qui Père, vous vous rendez compte, quand Jésus donnait les secrets, il le disait, il le donnait seulement à ceux dont il savait qu'ils auraient un ministère dans la cause finale de Jérusalem glorieuse. C'est pour ça qu'il ne prenait que Jacques, Jean et Pierre. Pour les secrets de Marie, par exemple. Mais nous, on est à une comme génération, si vous voulez, quand même, où ce sont ces secrets-là qui relèvent de l'Église, de la Jérusalem spirituelle opérative, comme on dit maintenant. Les mêmes langages que les loges. La Jérusalem spirituelle, c'est l'Église catholique opérative. Celle qui opère, celle qui laisse le travail de Dieu faire. Et ben, c'est formidable. Pour ça, on rend grâce d'avoir eu ces gens qui nous ont formés à la doctrine mystique, à la doctrine mariale, à la doctrine de Jésus lui-même. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ça se faisait. C'était des causes instrumentales, c'est tout. Rien qui venait de... C'était pas des causes premières, c'était pas des causes secondes. Des causes instrumentales. Et là, c'est extraordinaire parce que quand quelqu'un a été donné à Jésus au Christ, dans l'Église et à un immaculé pour être ceux qui donnent précisément les secrets que Jésus a confié à quelques-uns pour qu'il y ait l'infaillibilité. L'infaillibilité touche quand même quelque chose de très 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 délicat, très précieux. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le donner à tout le monde? Hein? Parce que si on le donne à tout le monde, on envoie toujours un antéchrist pour l'utiliser pour lui. Pour se faire valoir. Et c'est sûr que c'est un des aspects de l'antéchrist, ça. Donc on ne donne pas à tout le monde. Attention, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas plus, parce que c'est tellement délicat. Dieu le Fils veut être crucifié, Dieu le Saint-Esprit peut être arraché à la grâce où il se rend à l'aise, présent dans un placement merveilleux et délicieux du paradis de l'homme et de la femme. Grâce originelle. Il veut bien être arraché à ça. Le Père veut bien être dévasté. Mais on ne touche pas au mystère de Marie. C'est beaucoup trop délicat. On ne touche pas à ça. Et on le voit bien que Jésus ne veut pas qu'on touche, pour souiller tant soit peu de l'extérieur, le mystère de Marie. Mystère de l'Immaculée, mystère de... Vous voyez, il y a Yod, Eva, oui, mais pas le final. Ça, on ne touche pas à ça. C'est d'ailleurs écrit dans la Bible, hein, où on voit, tiens, quand tu commences à toucher l'arche, sous un certain rapport, le type, la terre s'ouvre immédiatement, Dieu ne le permet pas. Mais qu'on touche à... à l'Esprit Saint, dans le péché originel, qu'on touche au Verbe de Dieu, qu'on touche à Dieu dans son amour de complaisance bien-aimé, dans le don qu'il se fait de lui-même, qu'on touche à la paternité. Ça, bon Dieu vous dit oui, ça. Pas trop quand même, parce que c'est quand même très 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 grave, mais le secret, c'est différent. Il y a un secret. Pourquoi? Parce que le secret appartient à l'indivisibilité de la miséricorde exprimée dans l'ouverture des droits. Et ça, on ne touche pas à ça. C'est joyau. C'est le secret de Marie quelque part. Et vous l'avez là. Vous l'avez là. extraordinaire. C'est vraiment. Rien qu'avec des paraboles comme ça, on voit que Jésus est Dieu. Ça suffit, quoi. En trois mots, il y a tout. Encore faut-il avoir la clé de David pour rentrer. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de gratitude vis-à-vis de ceux qui nous communiquent la doctrine infaillible. Une gratitude, mais inconditionnelle. Inconditionnelle. Un amour, je veux dire. Inconditionnel pour le Saint-Père. Mais inconditionnel. Pas seulement comme ça, parce que extérieurement, je dis en disant, je suis catholique, j'ai un amour inconditionnel pour Saint-Père. Et puis je sais que je dois faire par la foi, même si je ne comprends pas tout, avoir un amour inconditionnel pour Saint-Père, c'est pas seulement ça, parce que ça reste extérieur, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais si c'était que ça, ce serait une vertu humaine. Maintenant, c'est un amour charitel. Et voilà comment on rentre de la foi à l'espérance, de l'espérance à la charité. C'est à l'intérieur. Cette gratitude extraordinaire. Ce qui fait la pupille de l'œil du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans le mystère de Marie. Ce côté joannique, vous voyez, de l'ouverture des temps dans l'amour, est quelque chose de tellement indispensable pour passer l'obstacle des derniers sauts de l'Apocalypse. Indispensable. Il n'y a pas d'autre voie. La plus petite de toutes, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus grand que tout le reste. Alors on va demander dans cette messe, là, l'intention de la messe, c'est ça, c'est que on ait du désir, quoi. Qu'on ait le désir, mais un désir fou, quoi, un désir. Je sais pas comment dire, pas envahissant, c'est pas ça, mais un désir. Irréformable, un désir. Que tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant qui n'est pas ça, on l'abandonne. Un désir que toutes nos petits trucs de rien du tout, qui nous paraissaient être extrêmement grands, on laisse tomber. Un désir qui n'est plus rien de toutes ces scories. Un désir très 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 grand, un désir invincible. Que tout ça, ça s'en aille. Que, en nous, voilà, qu'on puisse être en paix, si on ne fait pas partir. On sera toujours inquiet, il y aura toujours... Jamais nous n'aurons la paix de Saint-Benoît. Jamais. Et la Pax. Mais une fois dépouillé totalement ça, de ce qui est... Toutes ces scories. Enfin, c'est des scories assez belles quand même. C'est des très très belles perles. Hein, qui viennent de Dieu. Mais il faut avoir ce désir, voyez, de rentrer dans la cause finale. Par la foi, par l'espérance, par l'amour. À ce moment-là, on a un tout petit chemin pour rentrer dans le cœur de Marie, de manière joannique, victorieuse, pour que l'accomplissement de la fin puisse venir en nous, physiquement, hein, et on le ressent en plus, dans le baiser du véritable amour. Voilà, c'est pour ça que je voudrais célébrer la messe, pour qu'il y ait cet acquiescement en nous, du désir. enfants du monde nouveau. Mais il faut rendre gloire au Saint-Esprit. Il faut que c'est nous. C'est une règle d'ailleurs chez Frère Saint-Jean. C'est une des messes de la fin du mois, soit pour ça, pour que le Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on puisse être joanniquement ceux qui peuvent être honorés de l'intérieur, rendre gloire au Saint-Esprit. Rendre gloire au Saint-Esprit, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a plus rien d'autre pour eux que ça. Rendre gloire au Saint-Esprit. c'est le dernier mot de l'Apocalypse, hein, c'est, vous savez, l'épouse saint et l'Esprit saint disent viens. Voilà. Ça glorifie le Saint-Esprit. Là voilà, l'amour, le doigt du Père, voilà, qui dit viens. Dans l'au-delà de l'unité des deux, de l'Esprit Saint, qui est une inspiration passive incréée, qui est là, et puis du Verbe de Dieu, de l'épousé, qui est donc inspiration passive, et qui ne sera active que dans le vient. Et puis lorsqu'on glorifie et on rend du coup honneur de l'intérieur au paraclet, et en plus c'est physique. Et en plus c'est sensible, et en plus c'est lumineux, et en plus on le voit, et en plus on comprend, et en plus on en reçoit la plénitude reçue. C'est un acte d'espérance et d'amour en plénitude reçue de l'accomplissement final de la charité, non pas universelle, la charité éternelle. Alors du coup, si on a ce désir d'être des disciples conscients de la glorification du Saint-Esprit, voilà. À ce moment-là, c'est ça. On risque pas d'en toucher le moindre aspect si on ne le veut pas, si on ne le désire pas, on l'aura pas. Ça, c'est déjà. Bon, Dieu nous respecte quand même, mais c'est nous, on dit ça. On fait comme ça, on a toujours une messe pour qu'on puisse glorifier Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas. Des désirs, par exemple, on pourrait avoir le désir de que la prochaine retraite soit formidable, qu'il y ait beaucoup de conversions. C'est ça. On fait la messe pour qu'il y ait beaucoup de conversions à la prochaine retraite qu'on va prêcher. Ben ça, c'est strictement interdit par la règle. C'est pas un désir final, d'accord. C'est un désir temporel. Parce qu'on s'y retrouve quand même. Le désir, que je sais pas quoi, vous voyez, on peut avoir plein de désirs que la prochaine fois. Non, c'est pas des désirs de grâce temporelle pour qu'elle soit si grande qu'elle soit, si immensément grande qu'elle soit, ça, c'est strictement interdit par la règle. Que notre œuvre puisse glorifier Dieu, ça, quand même, et puis la chrétienté avancer, ça, c'est strictement interdit par la règle. Et par la règle de Saint-Benoît aussi. C'est strictement interdit par la règle de Saint-Benoît. Si c'est ça, on n'est jamais en paix. Et du coup, on ne peut pas être bénédictin. On ne peut pas être béni, quoi. Mais on est béni que si il n'y a plus rien d'avantageux pour nous. Là, on l'enfouit, oui. Tu le vas qui t'enfouit dans trois mesures de farine. Alors c'est l'intention, c'est ça, ce matin. Ce matin, c'est l'intention de la messe. Que chacun y rentre comme il veut, hein, mais c'est l'intention de la messe. Que tout le reste qui n'est pas ça soit brûlé. Que ça ne nous intéresse plus. Vraiment, ça nous intéresse plus. Oh, alléluia. Quel débat. Uniquement, quoi. À la gloire du Saint-Esprit. Et C'est dans l'oraison, c'est dans le passage à la cinquième à la sixième demeure, en vérité, qu'on entrevoit ça de manière contemplative. Quand vous êtes à l'intérieur de l'hypostase de la troisième personne, de la très sainte Trinité, vous êtes à l'intérieur, et tout. Voilà. Perçoit, vous savez. Ah, si c'est bien. À partir de maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout. Que je ne revienne plus jamais en arrière. Et que j'aille jusqu'à la plénitude reçue de cette grâce. Et son accomplissement en plénitude reçue. Partout, toujours, en tout temps, en tout lieu, en tout temps et en toute nature créée. Ouais. À ce moment-là, c'est ça, l'intention. Puisse rentrer enfin quand même dans la grâce de l'Église catholique. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était, qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. La parole qui donne la paix déjà retentit. Le salut annoncé est au milieu de nous. La discorde, la haine s'éloigne de nos cœurs. Que l'amour du Christ, notre Seigneur, les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser. Satan, les yeux levés vers toi, Christ, ne te supplions, ne te souviens pas de nos péchés. En ton amour, prends pitié. Avec les anges, nous te bénissons. Avec tous les saints, nous te rendons gloire. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser Satan. Pour tous fidèles du Seigneur, célébrez le Seigneur avec les créatures immaculées, célestes et glorieuses. Glorifiez-le. Pour tous fidèles rassemblés autour de cet autel royal. Immaculée, sublime et saint. Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est, qui était, qui vient, Dieu parmi nous va dresser. Satan, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce toute divine de participer véritablement à ce sacrifice divin dans son fruit. Car chaque fois que ce sacrifice est donné avec toute sa force,
C'est l'œuvre de notre rédemption finale et de son accomplissement qui nous est donné en Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Élevons notre cœur. Nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.